juste avoir à manger, c'est le minimum de la dignité et plus de liberté, c'est le minimum. Pourquoi voulez-vous donc dégainer? Salaud, c'est le Far West dans la cité.
Vous avez juré de nous servir,
menteur.
Vous avez juré de nous protéger,
menteur.
Pourquoi voulez-vous jouer les Django
assassins?
C'est le Far West, au Faso.
Au Faso, c'est comme ça.
Bande d'assassins, bande de traîtres. Et on va garant les vieux pères de l'opposition. Là, on va les garants matin, là. Nous, on est sortis, là. C'est pas pour rentrer. Donc, faut pas en finir meeting, là, et puis après, c'est fini. On va continuer jusqu'à ce que les gars, là, reculent. Combien, les gars? Donc, les vieux pères de l'opposition, on vous garant, on est sortis matin, là. C'est pas aller jusqu'au bout. Ceux qui vont vendre la lutte, là, on va voir ça ici. Ok? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va? Donc, avec le frangin, nous sommes venus ici avec des balais. C'est le premier instrument utilisé par nos mamans. Et nos mamans symbolisent tout pour nous. Elles donnent la vie. Et quand on parle de l'Afrique, on parle de Mama Africa. Il y a trop de pourriture en Afrique, il y a trop de pourriture au Faso, et il est temps de nettoyer, et chacun devra sortir avec son balai.
C'est le balai citoyen.
Le balai citoyen.
Le balai du citoyen burkinabé.
Ok, merci encore.
Merci camarade.
On est ensemble.
On fait du bruit là. Vous êtes contents de la présence?
Oui, Kamki Hervé, avocat à la Cour et porte-parole du mouvement le Balai Citoyen. Alors donc je dois dire que le mouvement le Balai Citoyen est d'abord un mouvement de jeunes qui s'est créé de façon formelle en août 2013, voilà, mais qui avait eu déjà posé des actions symboliques en tant que mouvement le Balai Citoyen déjà dès le mois de juin 2013, le 25 juin notamment, lorsqu'il y avait eu donc un accident mortel sur une voie non éclairée, mais qui devait l'être. Ça veut dire déjà qu'il y avait une question de mal-gouvernance qui faisait donc que cette voie-là était la route de la mort à Bobo-Dioulasso, la route nationale numéro 1, donc à l'entrée de Bobo-Dioulasso. Mais on peut aller plus loin, en fait, pour chercher pourquoi, en fait, des jeunes ont décidé de créer un mouvement, le Balai Citoyen. C'est que déjà, il y avait quand même des regroupements autour du 13 décembre, donc la commémoration de la mémoire vers Zombo. Donc, la plupart des jeunes du mouvement se rencontraient à cette commémoration-là et se rencontraient aussi aux activités organisées par le Centre national de presse, notamment. Et à partir de 2008, on s'est rendu compte que, en fait, la mobilisation autour de cette cause-là était en train de faiblir, peut-être par rapport aux organisateurs et tout ça. Et on avançait inéluctablement vers les échéances en fait les plus importantes pour le pays, parce que en 2005 Blaise avait été candidat sur la base de la modification, donc 2010 c'était la fin, mais 2008-2009 il y avait déjà des discussions, est-ce qu'il pourra se représenter après, est-ce qu'il va. Donc finalement les jeunes qui se regroupaient là, mais qui appartenaient déjà pour la plupart à d'autres mouvements, donc des mouvements étudiants, d'autres mouvements de la société civile. Il y en a comme les artistes musiciens, Smokey et Sam Scalica, qui étaient déjà des personnes individuellement engagées à travers donc, leur musique. Donc, tout ça.
Sam Scalica.
Est-ce que les Bramoros sont là? Est-ce que le peuple du Faso est là? Est-ce que les gens intègres sont là? Allez-y. Paraît qu'ils ont commencé à couper les SMS. On va finir avec les IP, on va voir les téléphonies là après. Il faut dire à tous les guerriers dans tout le Burkina Faso de descendre sur Ouagadougou. Bobo descend sur Ouaga, Koudougou, Kaya, tout le monde sur Ouagadougou. Je suis sorti avec mon matelas. Si Blaise ne dégage pas, je rentre pas chez moi. Ouais.
Personne là se sont dit, mais pourquoi tout le temps on discute, on refait le monde, mais pourquoi on ne va pas mettre en place une structure qui nous fédère pour justement au moins refaire le Burkina. En 2012, il y a eu les élections couplées qui ont amené au pouvoir, si on peut le dire ainsi, l'aile radicale du CDP autour du petit frère du président. Et immédiatement, la volonté de modifier la constitution est devenue plus claire avec la mise en place du Sénat, que nous percevions comme un moyen de tripatuer la constitution. Donc à partir de ce moment, on s'est dit, bon, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut créer un mouvement pour mener des actions citoyennes d'éveil des consciences plus organisées, mais qui tranchait un peu avec ce qu'on voyait sur le terrain. Parce que ce qu'on voyait sur le terrain, ce sont les associations de développement et le mouvement syndical. En général, c'était ce qu'on voyait sur le terrain. Et nous nous sommes dit, on va créer une organisation de la société civile qui va être différente, qui va revendiquer ses objets politiques. Donc nous disons, ok, nous sommes une organisation politique, mais nous ne sommes pas un parti politique parce que nous ne voulons pas conquérir le suffrage et avoir le pouvoir. Mais notre objectif, c'est d'influer sur les politiques. Donc, du point de vue de la gouvernance et du point de vue aussi du changement de comportement des citoyens. D'autres moyens qu'on a utilisés, c'est de prendre des causes, les causes significatives. C'est-à-dire communiquer autour de grands problèmes qui intéressent toute la population. Par exemple, à Bobo, la question de l'hôpital. L'hôpital de Bobo est devenu un couloir, pas de bloc, pas de là. Et là, on organise une activité énorme succès. Tout Bobo connaît le balai citoyen. Donc, après, le travail devient facile. Donc, à Ouaga, avec les Bobo Ouaga aussi, mais essentiellement Ouaga, avec les délestages. Donc, on organise un sitting devant le siège de la Sonabel. Bon, ça fait le buzz, donc tout le monde parle du palais citoyen. Voilà des gens qui veulent faire changer les choses, qui s'intéressent aux questions de l'heure, aux questions importantes de l'heure. Et donc, toutes ces méthodes-là, unies, ont fait quand même que très rapidement, on a pu fédérer beaucoup de gens et à nos idéaux. Et il faut reconnaître aussi que on a quand même veillé à mettre en avant, parce qu'on savait que tout le problème de l'engagement citoyen, c'était la question de la crédibilité. Parce que les gens, quand ils voient de nouveaux visages, ils ont peur, ils se disent, bon, après, c'est pour venir nous flatter, on va servir d'échelle pour eux, ils vont aller prendre l'argent avec Blaise, et puis c'est fini. Alors, mais quand on pense, ok, bon, qu'il y a un artiste connu depuis longtemps, qui est toujours resté droit, donc il inspirait quand même confiance. Sans Kalouïga, la même chose, et de moi-même qui était aussi engagé dans la société civile en tant que magistrat, ainsi de suite.
Smoke, salue la population, s'il te plaît.
Bonsoir. Je devance déjà parce que ça va être le soir, là. Est-ce que tout le monde va bien? On est là pour faire le balai. On est là pour nettoyer tout ça. J'espère que vous êtes avec nous. Avec le frangin Sams Kaledja. On lève le poing en l'air, s'il vous plaît. Ça va se passer tout à l'heure. C'est pour montrer aux gens de ce pays que quand on a des choses à dire, il faut le dire dans la rue.
S'agissant donc du mouvement spontané, nous étions convaincus que Blaise Compaoré allait modifier la Constitution et que la seule chose, le seul obstacle qui pouvait l'en empêcher, c'était la mobilisation, c'était le refus de la population, mais le refus, pas dans les bureaux, mais le refus violent entre griffes de la population. Lorsque les gens nous disaient « oui, l'ambassadeur a dit, on dit non, c'est un problème burkinabé, il faut qu'on le règle nous-mêmes d'abord ». Donc c'est comme ça que déjà, lorsqu'on est entré en 2014, on a compris qu'il fallait donc se préparer à opposer la riposte parce qu'on était sûr que c'est en 2014 qu'il allait tenter, en tenu du fait que les élections c'était 2015. Donc 2014, il fallait préparer la mentalité des gens. Et une de nos stratégies justement était de dire à ceux qui sont dans cette structure-là, au titre des partis politiques et de la société civile, de ne pas participer à l'organisation du référendum.
Cette chanson, je l'ai écrite l'année dernière. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir qu'elle sera chantée par la jeunesse partout. Parce qu'enfin, la jeunesse a compris qu'elle doit se lever pour prendre les clés de son destin en main. Reviens. Et cette chanson-là, elle s'appelle « Ce président-là ».
Nous, on s'est dit, si ce texte-là passe, tout ce qu'on a fait comme combat, ça ne servira à rien. À partir de ce moment, nous avons donc commencé à préparer ce que nous avons appelé opération zéro député à l'Assemblée. L'objectif, c'était plutôt d'empêcher le vote de ce texte en question. Et heureusement, c'est passé avec nos partenaires, les autres organisations de la société civile. Donc, on a travaillé sur ça, c'est des ministres extraordinaires. Et du coup, tout le monde disait qu'ils vont aller au référendum. Et comme nous ne savions pas qu'est-ce que le Conseil des ministres va dire, à la conférence, nous avions deux communications, deux notes introductives. La première, c'était appeler les gens à manifester contre le vote. Et la deuxième, appeler les gens à s'opposer donc à la modification de la Constitution si c'est plutôt ce projet qui passait en Conseil des ministres. À 13h, le Conseil des ministres du 21 dit que le gouvernement a adopté le projet de loi modificative donc de la Constitution. Donc, 15h, nous présentons notre communication où immédiatement, nous disons Blaise Compaoré n'est plus président.
C'est une petite leçon. Hein. Ce président-là, ce président, il faut qu'il parte et il partira. Comment ? Ce président-là, ce président, il faut qu'il parte et il partira.
Parce qu'en faisant prendre cette décision, il a violé la Constitution. Donc il n'est plus notre président, nous ne le reconnaissons plus comme président et il doit partir. Et donc, nous avons dès ce jour-là appelé la population à se mobiliser pour barrer la route à l'Assemblée le jour où le projet va être examiné, puisqu'on ne connaissait pas encore le jour. Et donc, c'est ce que nous avons intitulé « Opération coup de balai ». Coup de balai, donc il fallait donner un coup de balai pour qu'il faut qu'il dégage. Voilà, donc le slogan « Opération coup de balai, Blaise dégage ». Donc c'était ça dès le 21. Et dès le 21, nous avons aussi compris que, un, nous ne pouvions pas le faire seuls, que deux, les partis politiques n'allaient jamais s'entendre pour le faire ensemble, et que donc il fallait une force neutre pour fédérer les efforts. Et comme ça, nous avons pris au niveau du Palais citoyen l'initiative donc, d'approcher individuellement les principaux partis d'opposition, l'UPC, le MPP, le Parti Uni, le PS de Maître Sankara, le PDC, pour leur dire, bon, nous, Blaise Compaoré n'est pas notre président. Vous, vous avez dit que vous voulez la désobéissance civile. Nous, on veut le faire partir. On a besoin d'organiser ça. Est-ce que vous êtes partant? Pas ensemble, individuellement. Parce qu'on savait que quand on va les mettre ensemble, question de leadership, ils ne vont jamais s'entendre. Donc, individuellement. Et individuellement, tout le monde a accepté. Et c'est comme ça qu'on a pu, effectivement, avoir tout le monde. Voilà, tout le monde savait qu'ils travaillaient avec le balai citoyen. Et on leur demandait, par exemple, à Ouagadougou, pour le MPP, quelle est votre zone d'influence? Où est-ce que vous pensez que vous pouvez vraiment mobiliser? Ça, on a pu avoir des points focaux en divisant Ouagadougou, notamment en 10 zones. Donc, dans chaque zone, on a mis des points focaux et chaque point focal était en contact avec deux responsables de chacune des parties intervenantes. Donc, toutes les organisations de la société civile que nous avons contactées et tous les partis politiques que nous avons contactés. Donc, chacun nous donnait deux responsables par zone. Et donc, ça faisait une petite équipe que nous rencontrons maintenant pour organiser en fait la mobilisation et notamment l'activité du 30. Donc c'est comme ça que en fait c'était quelque chose de très organisé, mais très peu de gens connaissaient l'organisation en fait. Donc il y avait vraiment un petit noyau dur là, qui connaissait donc toute l'organisation qui était mise en place. Et elle était tellement huilée qu'on a voulu l'anticiper le 28. Le 28, quand on est allé à la marche de l'opposition, parce que là, c'était la marche de l'opposition, et que nous avons vu qu'il y avait un monde fou, on s'est dit, bon, c'est aujourd'hui ou jamais. Malheureusement, ça n'a pas passé, parce que bon, l'opposition ne voulait pas un peu cette méthode, qui se disait un peu républicain. Donc, on ne s'est pas compris le 28, il y a eu des mots d'ordre contradictoires, ça n'a pas marché. Donc, il fallait revenir le 30. En ce moment, déjà, on avait tellement peur de la mobilisation compte tenu de ce qui s'est passé la veille que le 29, bon, on a dû organiser une caravane aussi pour paramuter un peu les troupes. Et effectivement, le 30, lorsque nous sommes sortis et qu'on a vu que les gens avaient répondu massivement à l'appel malgré tout le dispositif militaire qui était en place, on a compris que c'était aujourd'hui ou jamais. Avec voilà, c'était fini, il fallait le faire. Et donc on est allé donc sur l'assemblée comme dans un film. On est allé sur l'assemblée avec les manifestants, avec les grenades, les tirs à l'arme et ainsi de suite. Et quand on a pu prendre l'assemblée, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on retourne tranquillement, attendre qu'ils aillent se prendre dans un avion, aller voter ça dans une brousse quelque part? Ou est-ce qu'il fallait achever le travail, si on peut le dire ainsi? Et donc immédiatement on s'est dit, ok, on va aller à Kossiam récupérer notre pouvoir. Donc c'est comme ça que... Kossiam, c'est le palais présidentiel. Donc c'est comme ça que lorsque le mot d'ordre a été lancé, et donc, effectivement, tous les manifestants ont répondu. Et donc, on a pris la direction de Kossiam. Et voilà, c'est comme ça que le président donc a dissous le gouvernement, a retiré son projet de loi. Et après, ça a commencé à créer la zizanie parce que dès lors qu'il a fait ça, les partis politiques étaient satisfaits. Donc, ils souhaitaient que bon, c'est bon, on arrête là, il a retiré le projet, c'est gagné. Et donc, ce qui a changé tout, c'est que dans l'après-midi, le président a décrété l'état d'exception. Donc, quand il, non, l'état de siège, disons. Quand il a décrété l'état de siège, nous nous sommes dit c'est pas possible, il ne peut pas décréter l'état de siège, ça c'est pour passer à l'étape supérieure du point de vue de la violence. Donc immédiatement, les principaux responsables du mouvement, on a rappelé les autres organisations, on est reparti sur les chaînes de radio, avec les, rappeler les gens, dit de ressortir et on ne rentre pas tant que le président ne dit pas qu'il démissionne.
Il faut qu'il parte et il partira. Ce président là,
comment que
ce président, il faut qu'il parte et il partira. Mais avant que ce président là ne s'en aille, il faut prendre le temps de faire des audits de toutes ces années de gestion de pouvoir, pour voir si tout l'argent du pays n'a pas été volé et placé dans des banques à l'étranger.
Donc c'est comme ça qu'on a veillé, mais c'était pour des raisons de sécurité en fait, parce qu'on savait qu'à partir de ce moment-là, ils pouvaient arrêter les principaux leaders, donc il fallait rester ensemble, en public, avec le public, et puis voilà. Et c'est comme ça que le lendemain, c'était le 31, donc il n'avait pas encore démissionné, mais il avait tout lâché. Il avait tout lâché, sauf qu'il avait toujours le pouvoir.
Qui c'est qui a tiré finalement? Parce qu'il y a des rumeurs comme au coin. C'est pas au niveau du Parlement, mais c'est quand vous avez pris un endroit où il y avait la garde.
Oui, c'est pas au niveau du Parlement. Les morts, essentiellement, c'est au domicile de François Compaoré. Mais en fait, quand les gens disent ça, c'est pas exact, parce qu'il y avait des manifestants, notamment les étudiants, qui devaient venir par là-bas. Et donc, ils ont été bloqués par là-bas. L'objectif n'était pas d'aller chez François Compaoré. Donc, ils ont été bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'Assemblée nationale par là-bas. Et c'est comme ça qu'il y a eu des tirs. Donc, il y a eu d'autres morts au niveau du palais de Kossia, mais loin du palais. C'était le dernier tournant qui va donc sur Kossian. Là, le régiment, le RSP avait bloqué et là-bas, il y a eu des tirs. Mais après, il y a eu aussi des tirs qui sont des bavures parce qu'il y a des gens qui ont été tirés, touchés par balles. Voilà, des endroits qui étaient loin, c'est des militaires qui étaient dans des véhicules et qui ont tiré sur des gens.
Mais c'est essentiellement le RSP qui a tiré, il paraît, et pas les soldats appelés qui se sont pas opposés à votre action.
Non. En réalité, même non. En fait, il faut, par exemple, le premier barrage militaire qu'on a forcé, on l'a forcé par le dialogue. Parce qu'à un moment, il y avait un monde fou et ils étaient armés. Ils n'avaient pas d'autre chose que des Kalachnikov. Et donc, après que moi j'ai essayé de calmer les manifestants en vain, ils ont dit non, on va passer. Et donc j'ai approché les militaires. Et je leur ai dit, écoutez, on n'est pas des militaires, donc personne ne peut donner des ordres à ces gens-là. Voilà, ils sont déterminés à passer, donc ils vont passer. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez tirer ou est-ce que vous allez être du côté du peuple? Si vous êtes du côté du peuple, vous retournez vos armes et on va ensemble. Et après, ils sont partis. Non, mais comme dans, ils sont partis. Et donc, on est rentré. Et à partir
il y a des traditions ici, quand même.
Oui.
De l'armée, quand même, oui. Des appelés.
Oui.
Qui sont du côté du peuple.
Absolument.
Oui. Il me semble qu'il y a des traditions.
Il y a des traditions. Ça aussi, c'est vrai qu'on le savait en 1966, ça a été exactement la même chose. Donc, ils n'ont jamais tiré sur la population. Et j'avoue que ce jour-là, d'ailleurs, moi-même, je suis aller parler aux militaires parce qu'à un moment j'ai vu un officier venir. Donc j'ai reconnu donc c'est Talon, c'était un officier, je me suis dit bon, avec eux on peut parler. Donc effectivement, quand je suis allé parler, il n'a pas répondu en tant que militaire, il n'a absolument rien dit. Mais après, ils sont partis. Et quand ils sont partis, donc on a avancé. Là où il y a eu vraiment des tirs aussi au niveau de l'Assemblée, mais là-bas, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Parce que c'était le RSP, mais là, ils tiraient, mais en l'air. Ils tiraient en l'air, mais de façon intense. Puis à un moment, quand c'était une situation de non-retour, parce qu'on était à 5 mètres de différence entre les militaires et les manifestants, là encore, il y a un officier qui était dans un véhicule militaire qui est venu s'interposer entre la population et les militaires et qui leur a dit de reculer. Donc ils ont reculé, donc on a pris l'Assemblée.
Ils ont peur.
Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit, bon, en fait, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais si les militaires les tiraient, ils allaient tuer beaucoup de gens, mais eux tous, ils allaient mourir. Parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient 20-30, ils étaient bien armés, mais après, le monde qu'il y avait derrière...
Vous avez vu, quand on a chassé Ben Ali et qu'on a découvert le trésor de Ben Ali Baba, qu'est-ce qu'on y a trouvé? Il faut juste comprendre que Ben Ali n'est pas le seul. Tous ceux qui ont fait plus de 20 ans au pouvoir, ce sont des Ben Ali. Quand ils arrivaient au pouvoir, ils avaient ça comme moyen de déplacement. Une cité. Aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de vous décrire leur bien. Tellement il y en a. Et ils sont devenus plus riches que leur pays. Alors, avant que ces présidents-là ne s'en aillent, nous devons fouiller dans les caisses de l'État pour voir s'il y a encore de l'argent qui reste pour permettre à ceux qui vont venir de pouvoir assurer la continuité. Combien? Alors, avant de chasser ce président-là, il faut checker. Combien? Est-ce que vous êtes prêts? Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira.
Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez quand il est parti? Et comment vous envisagez maintenant?
En fait, nous, le départ de Blaise Compaoré, nous l'avons dit dès le 30 et le 31, nous avons dit, c'est rien, c'est l'acte 1. Il est parti, mais notre objectif, c'était pas seulement qu'il parte, c'était le changement. Donc, Blaise est parti, pour l'instant, il faut maintenant chercher le changement. Le changement, c'est la réforme des institutions. Le changement, c'est aussi un président élu qui va respecter les institutions. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement, nous sommes en réflexion stratégique. Et parce que un des grands actes de notre intervention future, ça va être sur les élections. Il faut que les gens s'inscrivent et qu'ils votent. Et deuxième élément stratégique, c'est que sur les réformes vont être faites. Mais tout ne va pas pouvoir être mis en place pendant la transition. Il faut que nous essayions donc de nous approprier ces réformes-là et essayer d'obtenir des candidats que chacun s'engage à les mettre en œuvre. Ça nous donne la légitimité après de pouvoir insister aussi après les élections pour qu'il y ait le vrai changement. Donc, c'est dans
Mais
ce
comment
cas.
Vous garantissez ça? Est-ce que vous-même, vous allez vous proposer pour les élections un candidat?
Non.
Et est-ce que vous jouez un rôle de contre-pouvoir?
Nous attendons jouer un rôle de contre-pouvoir. Et c'est très important dans les sociétés comme chez nous. Pourquoi? Parce que si, en fait, Blaise Compaoré a pu faire ce qu'il a fait, si en Afrique c'est partout comme ça, c'est parce que les hommes politiques, les intellectuels dans l'ensemble, n'inspire aucune crédibilité. Donc, en fait, moi, j'ai participé à des études où on fait des sondages où peut-être à plus de 95% des gens te disent, si tu vois quelqu'un dans la politique, c'est qu'il est malhonnête. Donc, c'est un peu la même chose aussi avec les organisations de la société civile. Et nous disons qu'aujourd'hui, il faut prendre du temps, il faut une démarche pédagogique. Et la démarche pédagogique pour nous, ça consiste à dire, nous sommes allés vers les populations. Nous leur avons dit, sortez, il faut qu'on se batte, il faut qu'on change les choses. Ensemble, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne voulons pas le pouvoir. Si demain nous sommes candidats, nous troublons le discours. Et ça peut avoir des conséquences négatives. Les gens vont retourner chez eux, ils s'en foutent de la politique et finalement les politiciens font ce qu'ils veulent. Donc il est très important que nous restons dans le rôle de contre-pouvoir, dans le rôle de sentinelle comme nous le disons. Et ce rôle nous autorise de toute façon à influer sur les choix, mais en restant constant. Et nous disons, comment on ne peut pas tout faire, les partis politiques, voilà, vous signez un engagement de mettre ces réformes-là après, si vous prenez le pouvoir. Si quelqu'un signe, ça veut dire qu'il est du côté du peuple, puisqu'il veut faire les réformes. Donc, s'il ne signe pas, ça veut dire qu'il n'est pas du côté du peuple. Et nous, on va le dire au peuple, ce gars, il n'a pas signé, ne votez pas pour lui. Donc, après, c'est lui qui va être élu. S'il a signé, eh bien, on va lui demander des comptes, toujours dans notre rôle de sentinelle, on va lui demander des comptes sur les engagements tenus ou non tenus. Voilà, les politiciens, ceux qui sont aux affaires, vont quand même, je ne dirais pas craindre, mais faire attention voilà, à ce qu'ils font.
Au niveau du contre-pouvoir, comment vous vous organisez?
Oui, on essaie de créer en fait le contre-pouvoir déjà au niveau de la base. En fait, le mouvement est organisé de façon très, 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 très décentralisée. Ça veut dire à 10 personnes, vous créez un club CIBAL. Un club de CIBAL, c'est citoyen balayeur. Donc, vous créez un club CIBAL. Et donc, nous disons que au niveau donc d'un secteur, il y a le point focal du secteur. Donc, tous les clubs CIBAL du secteur doivent avoir et leur propre activité au sein du secteur. Donc, comme ça, ce qui se passe, c'est que vous allez aller élire sans doute un conseiller, mais vous les élisez sur la base de quelque chose auquel vous participez. Et à partir de ce moment, puisque lui, il est votre, c'est un exécutant, lui, mais vous mettez la main dans la pâte. Et c'est pour ça que nous disons d'ailleurs, donc, en fait, il y a une grande autonomie au niveau donc des clubs. Mais pour autant que tout se cadre dans les objectifs du mouvement, la coordination régionale et nationale, deux coordinations régionales, et après c'est directement les clubs. Donc le reste c'est des points focaux d'une personne qui a les contacts, et puis c'est comme ça. Au national, bon, avec les autres organisations, les alliés stratégiques sur une question donnée, on agit, mais chacun doit être acteur lui-même de son développement à la base.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours.
dans la boulimie du pouvoir. Et ça, il faut le savoir. Et ça, il vaut mieux savoir.